Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, l'émission précédente, nous avons voyagé dans le monde à la poursuite toujours de nos pionnières créatrices au cinéma et nous avons atterri en Croatie pour rencontrer une scénariste, également journaliste et écrivaine, de surcroît féministe investie, du nom de Marija Jurić Zgorka. Après avoir écouté la compositrice croate Dora Pejacevic, nous avons filé tout droit au Chili rencontrer Gabriela von Busenius Vega, qui elle est considérée comme la première réalisatrice chilienne et qui fut aussi scénariste, metteur en scène, directrice artistique, critique de cinéma, journaliste, romancière, ben oui, tout ça. Et nous avons terminé notre périple avec une chanson réputée, écrite et composée par la chilienne Violeta Parra, intitulée « Gracias a la vida », merci à la vie. Et je dis merci à la vie de pouvoir nous retrouver aujourd'hui pour filer à tire d'aile, hein, si je puis dire, au Brésil. Alors c'est facile et moins fatigant, moins coûteux, grâce à la Voix des Arts, de changer de lieu en une seconde. Et c'est pour rencontrer Cléo de Verberena, qui est son nom de scène et de cinéaste, mais qui est née sous celui de Jacira Martins da Silveira. Alors celle-ci est née en 1904. Et pour vous raconter un peu sa vie, elle quitte sa petite ville d'Amparo à la mort de son père pour la capitale de São Paulo, retrouver partie de sa famille. Et c'est à São Paulo que sa carrière de cinéaste va pouvoir démarrer. Alors à cette époque, dans les années 20, São Paulo est une ville bouillonnante, en plein essor, avec sa population cosmopolite, ses commerces en tout genre, dont les cinémas, qui font le bonheur de tous et de toutes. Et bien évidemment, Jacira n'échappe pas à cet engouement et nous pouvons supposer qu'elle commence à rêver d'un futur où elle aussi se trouverait devant ou derrière une caméra. Alors le destin fait dans ce cas bien les choses car c'est à São Paulo qu'elle va rencontrer son futur mari, César Melani, un ambitieux qui veut réussir dans les affaires et en outre, il est l'héritier bienheureux d'une belle somme d'argent, ce qui va lui permettre de réaliser des projets. Alors il se trouve qu'il est aussi passionné de cinéma que Jacira et à deux, ils vont créer une société de production, la Epica Film, ainsi qu'un studio de tournage. Dans la foulée, ils changeront également leur nom pour des pseudonymes un petit peu plus... pimenté, ou davantage en accord avec leurs futures ambitions cinématographiques. Lui se fera appeler Léas Macrini, et elle, Cléo de Verberena. Et c'est en 1930 qu'ils produiront le film que Jacira, devenue Cléo, réalise, intitulé « Le mystère du domino noir », tiré d'un roman d'un écrivain nommé Aristide Rabello. Alors, c'est un film qu'ils sauront bien valoriser, mettre en avant, grâce à une publicité importante, ce qui a nécessité en outre un investissement conséquent en énergie et en argent de la part des protagonistes. Ce film aurait fait l'objet de versions différentes pour changer quelques éléments de l'intrigue, mais le fond reste identique puisqu'il s'agit de l'histoire d'une femme mariée déguisée en domino pour le carnaval et qui sera assassinée. Alors la femme domino, c'est bien évidemment, elle est interprétée par Cléo de Verberena, mais ce que j'ai lu et que je note, c'est son rôle en tant que première femme cinéaste brésilienne qui sera d'ailleurs valorisée par les médias de l'époque. Alors le couple projette quand même de produire et de réaliser d'autres films, mais leurs finances ont été mises à mal par ce film, même s'il a été projeté dans quelques salles de São Paulo, voire en dehors. Et justement, pour améliorer leurs finances, Cléo mettra ses talents de comédienne à profit en jouant dans deux pièces de théâtre. Alors en ce qui concerne la filmographie, elle aurait dû interpréter un rôle principal dans un film qui, hélas, ne sera pas réalisé. Mais sur ces entrefaits, le couple décide de promouvoir le mystère du domino à Rio de Janeiro. Bon, apparemment, ce sera peine perdue. Le couple va alors se débattre dans de gros problèmes financiers. Alors, est-ce une conséquence de ces problèmes devenus insurmontables qui fait que le mari de Cléo de Verberena, Léas McRenny, alias César Mélanie, est retrouvé mort dans son fauteuil en 1935, alors qu'il n'avait que 31 ans. Enfin, c'est en tout cas à la suite de ce drame, sur fond de problèmes financiers, que Cléo de Verberena abandonnera le cinéma pour se remarier 5 ans plus tard avec un diplomate chilien. Puis elle décédera 3 décennies plus tard à l'âge de 68 ans, sans être revenue depuis au cinéma. Alors nous allons faire notre pause musicale avec une compositrice brésilienne nommée Calcida Campos Borges Barbosa, qui elle est née en 1914 à Rio de Janeiro et qui a entamé de longues et complexes études musicales. Elle est d'abord entrée à l'École nationale de musique de Rio de Janeiro, où elle a étudié l'harmonie, le contrepoint, qui est une technique de combinaison de plusieurs mélodies pour produire un effet musical harmonieux, et la fugue, qui fait aussi l'objet d'une écriture, adaptation particulière. Donc, elle a étudié la composition, le piano, également le chant et d'autres techniques musicales qui l'ont conduite dans un premier temps à exercer en tant que pianiste dans des groupes de danse et pour lesquels elle composa également. Elle occupera ensuite des postes à responsabilité, par exemple en tant que directrice de l'orchestre d'une radio qui s'appelle Méric Vega, puis de l'Institut Villa-Lobos, du nom du célèbre compositeur brésilien avec lequel elle participera à des projets d'éducation musicale. Dans diverses écoles, elle enseignera la musique de chambre, la composition, dirigera même une chorale en 1971 qui rassemblera un nombre impressionnant d'étudiants issus des écoles de musique de Rio, et ce en vue d'un événement important qui sera la commémoration de la semaine de l'indépendance du Brésil, fête qui correspond au soulèvement des Brésiliens au XIXe siècle pour s'affranchir du Portugal. Alors elle continuera de composer. On trouve de nombreuses études pour piano, pour orchestre, de la musique de chambre, aussi pour chant et pour la danse. Et elle créera d'ailleurs une méthode pour retranscrire les danses folkloriques et notamment brésiliennes qui s'intitule la rythmoplastie. Alors, c'est une forme d'écriture qui associe les notes de musique à des symboles, les plastias, représentant la gestuelle du corps et utile pour pouvoir se repérer dans l'accord des mouvements corporels avec la musique. Et pour cela, elle collaborera avec une chorégraphe nommée Clara Semeles. Et comme elle est une pédagogue, elle proposera également différents ouvrages à caractère pédagogique. Et il est dit également qu'elle fut l'une des pionnières de la musique électronique au Brésil, qui est une musique constituée de sons synthétiques et qui est apparue dans les années 50. Mais pour l'heure, nous allons écouter une composition de Calcida Borges Barbosa, qui est une étude brésilienne, la numéro 5, une petite musique aux accents folkloriques brésiliens, enlevée, dansante, en tout cas bien agréable à l'oreille. Thank you. brésilienne s'est lancée dans l'industrie cinématographique, puisque d'actrice, elle est devenue scénariste, réalisatrice et productrice. Il s'agit d'une émigrée portugaise nommée Maria do Carmo Santos, qui sera connue sous son pseudonyme de Carmen Santos. Or, celle-ci est née comme Cléo de Verberena en 1904, au début du XXe siècle. Elle aura la chance d'échapper au destin sans lendemain d'une jeune émigrante pauvre, condamnée à travailler en clandestine en usine. Tout cela parce qu'elle aura eu la bonne idée de répondre à la petite annonce d'un magazine. Et elle sera choisie parmi d'autres pour interpréter le rôle principal dans un film de 1919 réalisé par un Américain, William Jensen, et intitulé Uruto. Et cela alors qu'elle n'avait jamais été confrontée ni de près ni de loin au cinéma et ni au théâtre d'ailleurs et de toute sa vie. Alors ce rôle est un tremplin qui la propulse dans un autre univers où elle va trouver ses marques et évoluer de façon plutôt positive, même si elle rencontre des obstacles et ne peut pas toujours mener à bien ses propres projets. Quoi qu'il en soit, elle est reconnue, elle paraît dans les revues et magazines, on parle d'elle puisqu'elle fait l'objet d'articles et se montre telle une star sur plusieurs photographies. Là, elle rencontre un homme d'affaires issu d'une famille portugaise argentée. Elle l'épouse et c'est lui qui ensuite la soutiendra, et notamment dans ses projets de réalisation de films, si bien qu'elle produit et réalise en 1923 un film muet intitulé « A Carne » de l'écrivain Ribeiro, lequel ne sortira jamais en salle, et ça, j'ignore la raison. Bon, ce qui ne l'empêche pas de se lancer dans divers projets qui, malheureusement, seront également perdus. Alors, de sa filmographie, il reste 3 films complets dans lesquels elle apparaît en tant qu'actrice. Alors, si j'ai eu quelques mal à trouver des créatrices au cinéma, ce n'est pas le cas des compositrices, même si elles n'ont pas composé pour le cinéma. Bon, j'en ai trouvé quelques-unes nées fin 19e siècle, début 20e siècle. L'une d'elles, vous l'avez entendue dans cette émission de La Voix des Arts, c'est Calcida Borges Barbosa, mais vous en avez entendu une autre dans une autre émission consacrée aux femmes artistes et notamment compositrices. Il s'agissait de Chiquina Gonzaga, née en 1847. Et nous allons faire notre pause musicale avec une musique, cette fois-ci d'une compositrice brésilienne nommée Clarice Lété, née en 1917, qui fut également pianiste et professeure de musique à l'Academia Internationale de Rio de Janeiro et composa des œuvres pour chant, piano et orchestre. Et elle a également utilisé le folklore brésilien dans ses compositions. Et là, nous allons écouter une pièce au piano intitulée « Distancia ». Or, le hasard de mes déambulations cinématographiques m'a conduite au Pérou, car figurez-vous que les Péruviennes aussi se sont intéressées au cinéma. Or, je nommerai tout d'abord l'écrivaine Maria Isabel Sanchez Concha Aramburu, j'ai du mérite pour prononcer tous ces noms, née en 1889, dont la plume alerte et vigoureuse a été mise au service du long-métrage à Lima, pour un film de 1913 intitulé « De l'hôpital psychiatrique au mariage ». Je pensais que ce serait plutôt l'inverse, mais bon. Bon, un film qui raconte des quiproquos amoureux avec un passage rapide pour un des amoureux dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est un film qui sera bien accueilli par le public. À la suite de cela, Maria Isabel Sanchez Concha Aramburu participera encore à l'écriture d'autres scénarios dont peu d'informations nous sont parvenues. Quant à son fils Enrique, il est dit qu'il héritera des dispositions maternelles en devenant réalisateur, critique de cinéma et également compositeur de musique de films péruviens. Alors une autre scénariste est Angela Ramos de Rotalde, née en 1896, en outre l'une des premières journalistes péruviennes. Elle a écrit en 1927 le scénario d'un film intitulé, et je le traduis en français, « Le carnaval de l'amour » du réalisateur italien Pedro Sambarino, film qui est décrit comme pittoresque, humoristique, naturaliste et dans lequel sont mises en opposition la ville corruptrice et la campagne innocente et mise en scène la rencontre d'une femme cultivée, professeure de la ville avec un propriétaire terrien. Or, la critique fut favorable sur un film qui, paraît-il, sut valoriser les caractéristiques sociales et traditionnelles péruviennes. Et il fut dit que la scénariste Angela Ramos de Rotalde sut trouver le ton juste. Quant à Stefania Socha, si elle naît en Pologne en 1898, elle devient une productrice en arrivant au Pérou en 1926 et débarque avec un style, on va dire, à la garçonne, en tout cas avec un comportement anticonformiste qui va interpeller les Péruviens, et elle se lance dans le cinéma suite à son expérience de comédienne en Pologne, au théâtre et à l'opéra. Et elle crée ainsi la Perufilm, société de production et école où elle collabore avec ses élèves et jeunes acteurs qui joueront la comédie dans la production de son film intitulé « Los abismos de la vida », les abîmes de la vie, tourné par un photographe argentin, Luis Angelm Scaglione, et réalisé par une équipe de professionnels sur un scénario écrit par un poète et journaliste, Julio Alfonso Hernandez. Alors l'intrigue tourne autour d'histoires amoureuses, d'une fille abusée, sur fond de complot et de meurtre. Film qui eut un certain succès, fit l'objet de critiques quand même mitigées, mais qui fut projeté dans plusieurs salles jusqu'au début des années 30. Et il est dit que c'est un film qui a ouvert la voie à d'autres réalisateurs péruviens du muet. Alors il semblerait que Stefania Stocha eut d'autres projets de production au Pérou, enfin rien ne le prouve, quoi qu'il en soit. Le film sonore détrôna le muet en 1934, tandis que Stefania Socha s'envolait vers le Brésil, où elle aurait créé un studio de tournage, la Gancha Film, puis elle retourna en Pologne en 1939. Et après la guerre, elle entama une carrière d'actrice et de régisseuse, du moins c'est ce que j'ai lu, et elle est dit qu'elle décéda en Pologne en 1958. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez pu constater jusqu'à présent que le cinéma, à ses débuts, a bien été investi par les femmes dans tous les coins du globe. Mais ce n'est pas fini, car l'émission prochaine, nous allons en rencontrer d'autres de ces créatrices au cinéma, donc sous d'autres cieux, peut-être même dans des lieux que vous ne soupçonnez même pas. Et ce sera la surprise pour le reste de ces émissions consacrées aux pionnières au cinéma, tout corps de métier confondus, Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.